quand vous apprenez à connaître la personne en question et qu'elle-même apprend à vous connaître, elle se rend compte que vous êtes intéressé finalement par son pays, mais aussi par elle-même, sa vision des choses. Et vous savez, les islamistes, notamment les islamistes de l'islam politique, la mouvance Frères musulmans, dans les différents pays où elle est représentée, ils ont aussi une vision très transactionnelle et pragmatique des choses. Donc avoir un Français qui s'intéresse à eux, déjà moi à l'époque où j'y étais, ils n'avaient pas l'habitude, donc ils étaient contents d'avoir un Français qui s'intéressait à eux, à leur vision. Et donc ils étaient contents d'expliquer un petit peu quels étaient leurs ressorts idéologiques, politiques, et il y avait moyen de trouver un terrain d'entente.
Est-ce que c'est bien ou non de manipuler les gens? Eh ben non, c'est pas bien quand c'est pour soi. Mais quand c'est pour l'intérêt supérieur du pays, ben c'est il y a une forme de détachement.
On n'a pas véritablement d'état d'âme, déjà parce que, un, il y a la mission, on s'est fixé un objectif, et puis la deuxième chose, c'est de se dire, pour que ça fonctionne, c'est du donnant-donnant. Il a un besoin, j'ai un besoin, et c'est la convergence des besoins qui fait qu'il va trahir.
Il ne faut pas voir ça comme un jeu de manipulation froid où on utilise les gens à leur insu. Non, il y a une acceptation. Il faut qu'il y ait acceptation. Il faut qu'il y ait intégration du risque par l'autre. Et là, on peut avoir du plaisir tous les deux à faire ce qu'on fait. Mais dans la relation, on peut vraiment s'épanouir et elle n'est pas que négative. Voilà, c'est une relation positive. Au terme de ce stage, effectivement, on nous demande en fait ce que l'on souhaitait. À l'époque, on émettait des vœux, je pense que c'est toujours le cas maintenant. On émettait trois vœux. J'avais mis donc trois vœux pour travailler sur l'arc de crise, en fait, qui est la zone qui m'intéresse le plus, en gros, entre la Mauritanie et l'Iran. Ensuite, je suis parti en poste à l'étranger comme officier traitant. Mais la difficulté, là, c'était notamment le fait qu'on partait sous une identité fictive avec un vrai passeport, avec un faux nom.
Le DGSE, c'est un service spécial, c'est-à-dire qu'il a des moyens particuliers pour agir à l'extérieur, et c'est un service qui agit aussi d'une manière clandestine. Cela veut dire qu'il faut que nous inventions à nos agents des existences, des légendes, un passé, un métier. Et donc tout cela, c'est une construction que je qualifierais d'orfèvrerie de la clandestinité.
Vous avez cette identité, vous avez une adresse, vous avez des comptes en banque, vous avez permis de conduire, vous voyagez, etc. Vous faites vivre cette identité et vous l'utilisez aussi pour des missions. Après, la clandestinité, elle est relative. Ça va du noir total jusqu'au gris clair. Et plus c'est noir, plus c'est long, plus c'est compliqué, plus c'est cher, plus c'est difficile. Et tout ne justifie pas la clandestinité totale. Il y a des structures de la DGSE qui évoluent de manière complètement clandestine. Et c'est ce qui fait aussi leur force et c'est ce qui préserve leur sécurité.
Le service qui est un service clandestin est un service très cloisonné. Ce service va là où les autres ne vont pas, où ils ne peuvent pas aller.
J'ai un doctorat, j'étais chercheur, voilà, je déployais mes idées, j'essayais de faire du terrain, etc. Et à la fin d'un colloque, en fait, j'ai été ciblée, tamponnée. Il y a un vrai recrutement comme on fait avec des sources. Et ils ont su un bon manipulateur trouver le bon mot pour m'intéresser. Et puis en fait, c'était facile parce que c'est tellement extraordinaire dans le premier sens du terme que ça m'a vite appâtée. J'ai jamais mis les pieds à DGSE. Même des personnes au sein de la boîte se disent, mais qu'est-ce que c'est en fait que cette petite unité? Est-ce que je peux y aller? Dans quelle mesure est-ce que j'ai le droit d'en connaître? Il y a effectivement une sorte de boîte noire dans la boîte noire.
Le le clandestin, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Mais le métier qu'il fait aujourd'hui ne sera plus qu'une couverture. C'est-à-dire que son vrai métier, ça sera clandestin de la DGSE.
Je crée une vraie société qui a des vrais bureaux, un siège social, des statuts, un comptable, un avocat, des cartes de visite, des clients, des vrais, quelques infos, mais surtout des vrais.
Une structure de couverture, c'est une entreprise ou une association qui a une vraie existence légale, qui servira de prétexte à notre fichier clandestin pour se projeter dans certains pays, approcher certaines personnes et leur poser certaines questions.
Au sein des employés, qui est au courant de...
Absolument personne. Absolument personne. Et jusqu'à la fin, en fait, c'est ça qui assure la sécurité du montage. C'est que le fait que absolument personne ne sache que tout ça est une structure ex nihilo en vue de, certes, faire du business, mais surtout ramener du renseignement.
On est bien conscient qu'on cherche le mouton à cinq pattes. On veut des gens extrêmement disciplinés, mais capables d'initiative. On veut des autonomes, pas des indépendants. On veut des audacieux, pas des chiens fous. Des gens rigoureux, pas des rigides. On veut des créatifs, pas des fantasques. Donc tout est affaire de positionnement de curseur, en fait.
On a vraiment deux métiers, c'est-à-dire que notre vie est partagée entre 16 structures de couverture. Donc, où il faut faire des contrats, faire des rendez-vous, faire des colloques, se déplacer, organiser des rencontres, payer les URSSAF, faire sa compta, et toute l'autre partie où on travaille sur, avec les analystes et avec les bureaux recherche sur comprendre exactement la zone, comprendre quels sont les enjeux, quels sont les besoins de la boîte, qui on doit aller cibler, et en fait c'est deux espaces complètement différents, donc c'est lourd intellectuellement. Ouais.
La clandestinité, il y a plusieurs tendons d'Achille. L'un des tendons d'Achille, c'est la biométrie. Si on recrute un individu qui est allé dans certains pays et qui a laissé des traces biométriques en une identité réelle, on ne peut pas le renvoyer dans le même pays en identité fictive. Parce que lorsqu'il va passer la frontière, on va lui dire « Monsieur Chombier, vous êtes déjà passé sous un autre nom. Expliquez-nous. »
Moi, je savais que j'allais être en identité réelle. Parce que j'avais déjà un réseau qui pouvait être utile et que j'étais fiché partout. Et ça, c'était su dès le départ, puisque j'avais mis en prime à tous les pays où on sait qu'ils échangent leurs fichiers.
Réaliser des gestes opérationnels dans une vie normale, c'est ça l'avenir du renseignement. C'est d'être banal. C'est pas d'être secret, c'est d'être banal. Et donc, c'est d'avoir un comportement numérique, physique, qui soit banal, qui soit celui de la couverture que vous avez. Vous êtes un homme d'affaires, vous avez donc une façon de travailler. Et insérer dans ce pattern des gestes secrets.
En fait, l'identité réelle, on est tout est mêlé. Et quand on est en vacances avec sa famille, et ben en fait, on a des sources qui appellent pour travailler sur un projet, etc. Et on est tout est mélangé. Donc le risque est présent tout le temps, en fait. Et c'est ce qui peut aussi parfois après porter préjudice dans la vie perso, parce qu'il y a beaucoup trop de barrières.
Dans les repas de famille, au tout début de ma carrière, on me posait des questions, je répondais pas, et au bout de quelques années, quand on faisait le tour de table traditionnel, quand on arrivait à moi, on sautait. On me posait plus de questions, j'étais epsilon, quantité négligeable. Ça m'allait très bien. Ouais, il y a une sorte de diminution volontaire du rayonnement social, mais qui est consubstantielle du métier d'officier traitant. Et moi, je dois dire que moi, j'ai eu beaucoup de chance. Vis-à-vis de mes proches, de voir des gens qui étaient extrêmement compréhensifs, tolérants.
Il faut savoir que papa, il est un espion, même si ce n'est pas le terme finalement qui est employé. Papa, il travaille à la DGSE, papa, moi. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe à la DGSE, il y a plein de métiers, il y a des officiers de recherche, il y a des analystes, il y a tout ça, il y a plein de métiers. Donc il ne savait pas forcément que papa partait à l'autre bout du monde faire des choses parfois un peu osées, quoi.
La DGSE a le privilège d'être un service intégré. Ça veut dire que nous avons sous la même autorité le renseignement humain, nous avons l'ensemble des capteurs techniques, et puis nous avons le renseignement opérationnel qui nous permet effectivement de trouver un certain nombre de choses par des moyens qui sont des moyens d'ordre coercitif, d'ordre militaire.
Service section, je pense que sa mission est assez connue. C'est un peu le bras armé slash militaire de la DGSE. Le service section mène des actions de renseignement, peut mener des actions d'entrave également, mais les opérations qui sont menées ont vocation à ne pas être assumées par les autorités françaises.
La DGSE a une mission de recherche de renseignements et d'informations de nos autorités, quitte à entraver ce qui nous empêche d'affirmer notre souveraineté, et nous sommes, nous, le quitte à entraver. Donc l'entrave, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, vous en direz un peu, c'est s'opposer à tout ce qui pourrait nous attaquer, nous, notre nation, nous, la France, et ça, ça passe par des moyens qui sont variés.
Et ça peut aller jusqu'à la neutralisation.
Il vous appartient à vous de l'imaginer, tout est possible. L'explosion de véhicules, c'est simple, hein, vous comprendrez bien que c'est de l'entrave. Vous avez deux moyens. Vous avez un moyen où vous calibrez l'élément qui va permettre de détruire ce véhicule ou ce qu'il y a à l'intérieur de ce véhicule, ou alors vous allez agir de l'extérieur et vous allez faire détruire ce véhicule par un élément qui vient de l'extérieur. Là, vous aurez effectivement soit une explosion contenue, soit une explosion moins contenue et plus visible.
Le mandat de la DGSE n'est pas de tuer, uniquement c'est de renseigner, c'est d'acquérir les décisions de nos autorités. La dimension cinétique est très rare.
Nous faisons ce qui est nécessaire, et strictement ce qui est nécessaire, pour protéger notre pays et protéger nos compatriotes. C'est ça notre obsession, la protection de notre pays. Missions majeures qui ont été identifiées avec l'accord de nos autorités, et au fond toutes les capacités qui existent dans cette maison ont désormais été placées au service de ces missions. Prolifération des armes de destruction massive, des armes chimiques, nucléaires, biologiques, bactériologiques, c'est une compétence exclusive de la DGSE pour caractériser cette prolifération et ces trafics.
En fait, il s'agit de molécules de type différente. Celle en haut à droite représente un toxique industriel. Et celle en bas à gauche est une molécule générique qui montre un peu la structure de certains agents neurotoxiques comme le SAR. La contre-prolifération, c'est étudier la prolifération des armes de destruction massive. Il va y avoir par exemple un bureau qui va s'occuper des armes chimiques, un bureau qui va s'occuper des armes biologiques, un autre qui va s'occuper des vecteurs, et enfin un qui va s'occuper plus particulièrement de tout ce qui est nucléaire et radiologique. Beaucoup de pays différents, des dossiers différents, chaque pays a développé de manière différente ses programmes. Pourquoi un pays développe un tel programme? Quelle est sa doctrine? Connaître tous les organismes qui ont été impliqués, c'est un travail sur le long terme.
Notre but, en fait, c'est de pouvoir caractériser un programme d'armes. Et donc, tous les petits renseignements qu'on va récupérer vont nous permettre, comme un pulse, au fur et à mesure, de voir se dessiner la réalité d'un programme. Et c'est vos questions qui amènent des réponses, qui vous permettent de transformer quelque chose de tache, de gris clair, une gris foncé, en une vision très précise.
Quand on dit suivre un programme de développement balistique, par exemple, c'est suivre l'ensemble des sites qui, de la fabrication d'un moteur au site de lancement, seront mis en œuvre et utilisés. Nous sommes sur un site nord-coréen, connu comme étant lié à la prolifération balistique, on va dire. Sur ce site-là, on a des éléments qui peuvent nécessiter une expérience dans le domaine. Par exemple, si je vous montre cette infrastructure, le commun des mortels ne serait pas capable de l'assimiler à un banc d'essai moteur, et plus spécifiquement encore à un banc d'essai moteur à propulsion liquide. Donc là, il n'y a pas de critères qui nous font dire que c'est ça, parce qu'on le connaît, parce qu'on l'a vu dans d'autres pays, parce qu'on sait que ça ne peut servir qu'à ça. Et donc c'est toute l'expérience et l'expertise de l'interprète photo d'aller chercher les petits détails justement dans ce type d'infrastructure.
Le grand travail de la DGSE, c'est d'arriver à mettre des... on ne va pas dire que c'est un agent double, pour nous c'est une source, c'est-à-dire quelle que soit sa nationalité, quand on le recrute, c'est une source, et le but pour avoir le renseignement le plus précis possible, c'est d'arriver à mettre la source au cœur de l'endroit le plus secret, là où se prennent les décisions les plus importantes, les plus stratégiques, qu'elles soient politiques, militaires, scientifiques.
On peut imaginer un pays très fermé, dont on aimerait connaître, j'allais dire, la stratégie. Et un raisonnement un peu court pourrait être de se dire bah, il faut pénétrer les cercles de pouvoir de ce pays. Mais une autre façon, c'est de se dire l'information, où est-ce qu'elle circule, y compris si elle est dégradée. Ces gens-là voyagent. Ces gens-là ont des relations. C'est peut-être plus facile de travailler sur ces relations qui sont à l'extérieur du pays, pour recueillir l'enseignement. Dans tout un travail, ce qu'on appelle d'environnement, de ciblage, notre objectif, c'est de recueillir des renseignements. Où est-ce qu'on peut le recueillir? C'est pas nécessairement au cœur de la mêlée. Ça peut être à la sortie.
Le scientifique va nous donner le type d'agent qui va être développé, comment il a été développé et dans quoi. Le politique, la doctrine et le militaire, éventuellement le déploiement sur le territoire ou ailleurs.
J'ai le souvenir d'un qui travaillait à l'étranger. J'étais en poste dans ce pays-là. Il travaillait dans une structure sensible, mais qui représentait un intérêt majeur pour nous. J'ai mis en place le moyen de le rencontrer un jour par hasard. Donc on a sympathisé, on a discuté comme ça au cours d'un cocktail. Je lui ai proposé de le retrouver pour un dîner, l'inviter à dîner. Je me suis présenté assez rapidement, je me suis dévoilé. Je ne sais plus si j'ai cité à l'époque le sigle DGSE, mais je lui ai dit en tout cas que je m'occupais de dossiers sécuritaires à l'ambassade. Et on avait besoin d'avoir accès à certains des fichiers qu'il y avait dans sa structure. Donc je lui ai demandé de m'aider. Je lui ai dit qu'on mettrait en place toutes les mesures de sécurité adéquates pour le protéger lui.
On imagine une cible du service et que c'est son PC de bureau normal sur lequel la personne travaille. Et évidemment, c'est un PC dont on cherche à extraire des informations. Dans un réseau d'entreprise bien géré, habituellement, tout ce qui est branché, typiquement des clés USB ou qui est branché sur les ordi est quand même assez surveillé. En revanche, le câble vidéo l'est potentiellement un peu moins. Donc, on a développé un petit enregistreur vidéo qu'on a camouflé dans un adaptateur HDMI. Et donc, ça, c'est ce qui est typiquement branché à l'ordinateur et qui va être connecté à l'écran. Et là, on a une petite carte SD sur laquelle, en fait, va être enregistré le flux vidéo. Donc, l'idée, c'est par exemple qu'on a... On arrive à avoir accès à l'ordinateur de la personne en dehors de ses heures de travail. On va échanger les câbles vidéo. Donc remplacer le câble d'origine par le câble QG. Donc à partir de là, tout ce qui est fait à l'écran par la personne est enregistré sur la carte SD.
Donc, il s'est laissé convaincre par le raisonnement. Je lui ai proposé de le retrouver 2 jours après à tel endroit pour lui expliquer un petit peu plus en détail ce qui m'intéressait. Et donc, 2 jours après, il trouve le moyen de me recontacter. Et il me dit, je suis désolé, j'ai réfléchi à ce que tu m'avais demandé. Il me dit, je ne suis pas en mesure de le faire, en fait. Et juste à côté de mon bureau, il y a le directeur de la sécurité de la société. Il surveille ce que je fais, qui je vois. Et donc, je risque ma liberté, voire ma vie. Donc voilà, ça s'est arrêté là. Le feeling humain était bien passé, mais on n'a pas réussi à établir une collaboration professionnelle. Personnellement, à sa place, je pense que j'aurais réagi différemment. Conscient des enjeux, j'aurais pris ma part de risque. Lui n'a pas souhaité le faire, et je respecte tout à fait ce choix-là.
On a coutume de dire dans notre métier...